Pifi.
Une digue qui est somme doute pas très haute, hein, avec à gauche la dune et à droite, en contrebas, des maisons.
Grand reportage.
Alors, c'est dangereux d'habiter ici ?
Ah ben moi, je ne viendrais pas m'installer ici dans ces circonstances-là, parce qu'effectivement, ces habitations sont très basses, sont situées quand même pas si loin que ça de l'océan. Donc fatalement, il y aura un jour où un événement se produira qui fera que l'océan rentrera sur ces terrains. Ce sont des constructions qui sont relativement récentes, hein, sur la dune, et on n'a pas pris en considération voilà, ce facteur d'exposition au risque. Et le problème, c'est que l'exposition au risque, elle est certaine, et elle est en train de s'accroître.
C'était en 2010, la tempête Xynthia s'abattait sur le village de la Faute-sur-Mer, dans l'ouest de la France, poussant l'océan jusque dans les habitations. Une partie du village avait été submergée. Au-delà du drame vécu par les habitants, le vent et les vagues ont englouti la dune de sable qui protégeait le front de mer, accélérant l'érosion du littoral. Ce phénomène naturel qui s'accentue avec le changement climatique menace toujours plus les côtes et les populations qui vivent au bord de la mer. Quand l'érosion grignote la dune, c'est un grand reportage d'Agnès Rougier.
Le littoral atlantique, de la Vendée jusqu'au Pays Basque, est un long cordon de dunes de sable, très sensible aux mouvements du vent et de l'océan. Si l'érosion des côtes est un phénomène naturel, les plages de sable, qui occupent plus d'un tiers des littoraux de la planète, souvent dans des régions très peuplées, sont menacées de disparition par l'érosion. Une érosion due à de nouvelles constructions, aux tempêtes et à la hausse du niveau marin consécutive au réchauffement climatique. Mais comment ce phénomène d'érosion fonctionne-t-il exactement? Nous sommes allés rencontrer Paul Fatal à l'Université de Nantes. Il est géographe et co-directeur de l'Observatoire régional des risques côtiers.
Alors, l'érosion côtière est un phénomène extrêmement simple. C'est un recul de ce qu'on appelle, nous, le trait de côte. Et on détermine le trait de côte par une ligne végétale. Si celle-ci recule, c'est qu'il y a une érosion côtière. Attention, il faut mettre en perspective les choses. Je le dis d'emblée de jeu, l'érosion côtière est quelque chose de relatif. Si on prend l'exemple de la Vendée, et notamment des côtes sableuses, on va avoir un pourcentage de côtes qui sont en érosion, de l'ordre de 40% si je fais simple, mais le reste, ça veut dire que ce n'est pas forcément de l'érosion.
C'est un phénomène complexe ?
C'est un phénomène qui est lié à plein de mécanismes, mais généralement c'est ce qu'on appelle l'hydrodynamisme, c'est-à-dire les vagues qui arrivent sur le littoral, selon leur direction, par exemple des tempêtes de sud-ouest, peuvent participer à l'érosion plus accrue dans certains lieux géographiques de la Vendée, si on prend l'exemple de la Vendée, et donc on peut avoir un recul. Xynthia, lorsqu'il y a eu la tempête de Xynthia, dans certains secteurs, on a eu des reculs extrêmement importants. L'île de Noirmoutier, par exemple, qui est exposé ouest, a été moins impacté par l'érosion côtière au moment de Xynthia. Mais par exemple, les pays de Mont ont été impactés, certains secteurs ont été impactés, on a pu avoir des reculs importants qui ont été évalués de l'ordre de 10 mètres.
Retour à la Faute-sur-Mer. Le village est construit sur une presqu'île qui se termine par la pointe d'Arcey, réserve naturelle et terre d'accueil pour les oiseaux. À la Faute-sur-Mer, lors de la tempête Xynthia en 2010, 29 personnes ont été noyées au rez-de-chaussée de leur maison, des maisons qui étaient situées en contrebas du niveau de la mer. Elles avaient été construites dans des zones qui n'auraient pas dû être constructibles. Et la digue censée les protéger n'a pas joué son rôle. Yves Lequellec, de France Nature Environnement, est notre guide.
Alors quand on dit presqu'île, eh bien, c'est qu'effectivement il y a une langue de sable qui s'est petit à petit allongée depuis le XVIIe siècle. Les choses sont assez bien tracées aujourd'hui. Et là on est sur le côté océan, donc le côté directement exposé au vent, tempête océanique. L'autre rive étant celle de l'estuaire du Lay, qui est un fleuve côtier qui draine une grande partie du département de la Vendée.
Alors devant nous, en fait, des dunes, pas très hautes, mais couvertes d'herbes et d'arbres.
Alors ici, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une dune grise, donc une dune végétalisée, qui est donc du coup assez stabilisée, qui est assez profonde, qui permet d'encaisser les assauts de l'océan. Dans la situation actuelle, après, la question qu'on peut se poser, c'est dans les perspectives que nous donne le GIEC, notamment sur les effets du réchauffement climatique en termes d'élévation du niveau de la mer. On sait que c'est en train de s'accélérer. Jusqu'où cette dune pourra tenir? Ça, c'est effectivement, ça fait partie des inconnus qui ne peuvent que susciter normalement de l'inquiétude.
Ouais, ouais. En même temps, on est en face d'île. Vous êtes un peu protégé ici, même si vous avez subi des événements terribles.
On est en face de l'île de Ré, effectivement. Donc il y a le pertuis breton entre le continent et l'île de Ré. Il y a un effet protecteur, si l'on veut, sauf situation à caractère un peu exceptionnel. Et ces situations à caractère exceptionnel, en fait, on les avait un petit peu oubliées. Mais historiquement, des tempêtes type Xynthia, il y en a deux ou trois par siècle, recensées depuis le XVIe siècle. Donc c'est un point du littoral qui est particulièrement exposé à ce type de risque.
Vous avez parlé de tempêtes, Paul Fatal, mais... C'est peut-être une conjonction de facteurs qui détermine justement qu'il y ait érosion ou pas sur une côte.
Je suis très content de votre question, parce qu'en fait, si on reprend l'exemple de Xynthia, sans rentrer dans ce qui s'est passé au moment de la catastrophe de Xynthia, mais c'est la conjonction d'un certain nombre de phénomènes qui peut impacter le littoral de manière importante. Par exemple, effectivement, ce qu'on appelle, nous, le phénomène de surcôte. Qu'est-ce que c'est que le phénomène de surcôte? C'est finalement une dépression qui passe au-dessus d'un lieu. Donc on a moins de pression sur l'eau, l'eau a tendance à monter. Une tempête qui est importante et donc des vents qui soufflent de manière importante et qui participent à la surélévation de l'eau. Et puis juste à ce moment-là, c'est la pleine mer avec des coefficients, une marée très haute. Et donc tous ces phénomènes, s'ils se superposent les uns aux autres, ils engendrent effectivement des phénomènes d'érosion qui peuvent être beaucoup plus importants on va dire, le classique.
Alors vous avez dit là pour commencer que en fait l'érosion n'était pas régulière sur une côte. Alors qu'est-ce qui va déterminer qu'elle va se produire de façon plus intense à un point qu'à un autre?
Ça va être l'énergie des vagues à ce point. Ça va être, par exemple, si vous êtes derrière une île ou pas. Il y a plein de paramètres qui rentrent. Ça dépend des directions des vagues, d'où elles proviennent. Même entre 10 km de distance, on peut avoir un secteur qui va être très impacté et un autre secteur qui va être moins impacté parce qu'il est moins exposé.
Mais le fait que ce soit du sable, ça expose particulièrement à l'érosion, j'imagine, non?
Le sable est forcément mouvant. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous avez une vague qui déferle sur une plage... La vague monte sur la plage et puis ensuite se retire. Et donc dans ce phénomène d'aller et venu, si vous voulez, entre l'eau qui monte et qui descend, le grain de sable, il va être déplacé. Mais il peut aussi être déplacé latéralement. C'est-à-dire, vous avez ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une dérive littorale. C'est-à-dire, le sable va emprunter une direction. Chez nous, par exemple, en Vendée, grosso modo, la direction est du nord vers le sud, vers la pointe d'Arcé, qui se trouve à la limite de la Vendée et de la Charente.
Et c'est pour ça que la pointe d'Arcé, en fait, s'allonge, contrairement aux plages qui sont au-dessus, par exemple.
C'est exactement ça. Vous avez des trains, ce qu'on appelle, nous, des trains sédimentaires, de transit littoral, donc de transfert de sédiments, de sable, pour faire simple, du nord vers le sud, avec des processus de blocage de ce sédiment, par des ouvrages, etc.
En réalité, toute construction sur le littoral modifie la circulation du sable, la puissance du vent ou encore le sens des vagues. C'est justement ce que craignent les habitants du village de Bretignolles, à 80 km au nord de la Faute-sur-Mer, en raison d'un projet de création d'un port de 1000 places. Pour construire ce port, il est prévu de faire une brèche dans la dune en bordure de mer afin de faire entrer l'eau jusqu'à de grands bassins dont le creusement est prévu dans des zones humides situées entre l'océan et les habitations. Alors, en route vers Bretignolles. Excusez-moi d'arriver si tard.
Allez-y.
Evelyne de Regnaucourt, bonjour. Je suis là chez vous. Alors c'est un, entre guillemets, nouveau chez vous parce que vous habitiez à la Faute-sur-Mer au moment de Xynthia et vous avez fait partie des gens qui ont été inondés et donc expulsés par la mer en fait. Voilà maintenant à Bretignolles. Juste en face, on voit la mer depuis chez vous et on la voit parce que la dune a été rasée. Et cette dune a été rasée parce qu'il y a un projet de port qui est en route. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça va changer complètement, enfin, entre vous et la mer, il se pourrait qu'il y ait un port. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui connaissez justement la côte,
Evelyne? Eh bien, je pense que Xynthia n'aura pas servi de leçon à beaucoup de monde, en tout cas pas ici, à savoir que si on dit Xynthia à Bretignolles, oh là là, mais Xynthia, c'est il y a 20 ans, enfin, je veux dire, ben non. Donc Xynthia s'est passée à La Faulte-sur-Mer, on l'a vécu, il a failli y avoir 3 morts de plus quand même. Excusez-moi. Et aujourd'hui, c'est tombé là-bas, c'est pas de chance, il y a eu 29 morts, sinon aujourd'hui on n'en parlerait pas. Mais voilà, lorsqu'on fait un port aujourd'hui, il y a des maisons qui sont autour. Elles sont peut-être, ces maisons-là, en zone de grand danger s'il y avait quelque chose qui se passait un jour.
Oui, parce que c'est un projet quand même assez gigantesque. Hein. On parle de creuser dans la mer, casser le cordon de dune pour faire un port à l'intérieur. C'est-à-dire que vous, là, par rapport, on est devant un plan, devant une carte de ce projet. Vous seriez juste au bout du port et en face de l'ouverture.
Un petit peu plus haut, puisque en fait, si on est venu sur Bretignolles, c'était parce que c'était plus haut qu'à La Faulte-sur-Mer, où on était de mémoire à 2,68 m, là on s'est mis à 16 mètres. Donc, alors on va pouvoir nous dire aussi, mais en fait, quand vous êtes venu, vous aviez qu'à savoir qu'il allait y avoir un port. Il y avait eu, si vous voulez, 2 enquêtes négatives, 2 préfets qui avaient refusé le port de Plaisance. Aujourd'hui, je comprends pas pourquoi on l'accepte, puisqu'en fait, ce sont des zones Natura 2000 avec des dunes qui, en fait, comme vous l'avez vu tout à l'heure quand il faisait jour, en fait, moi, je voyais pas la mer avant. Et maintenant, depuis que les dunes ont été arasées, eh ben voilà, je la vois. Je la vois avec le vent aussi. Et puis ces dunes, si on veut comparer avec La Faulte-sur-Mer, il y avait à la Belle Henriette, à La Faulte-sur-Mer, des dunes qui ont été remontées par les tractopelles après Xynthia, puisque les routes avaient été défoncées. Et aujourd'hui, j'ai appris par mes amis qui sont encore là-bas à La Faulte-sur-Mer qu'il y a plus. Ces dunes, elles sont arrivées sur le bord de la route. Donc ça veut dire qu'elles étaient partenues par des arbres. Ici, il y avait des dunes qui étaient retenues par des arbres, par des oyas, toutes les herbes qui étaient là depuis très très longtemps.
Allons maintenant voir de plus près à quoi ressemble le chantier déjà entamé de l'éventuel futur port. Jean-Baptiste Durand de l'association La Vigie est notre guide à Bretignolles.
Gardien de la dune, halte au port. On peut descendre, hein. Oui, on peut descendre. Bonjour.
L'opposition au port a créé une petite zone à défendre, une ZAD, au bord de la route qui longe la dune, avec un bureau d'information sur le projet de port. Fred est là depuis novembre 2019.
Des gens se déplacent pour voir, revoir les dunes qui sont esquintées. Là, il n'y a plus un arbre sur la dune, le sable il n'arrête pas de s'en aller.
Oui, vous le recevez, ça, parce que vous êtes juste derrière.
Voilà, bah, on est exposé plein sud, donc bah, toutes les tempêtes qu'il y a eu, on se prenait le sable en allant faire des petits tours de garde le soir où le vent soufflait bien. Bah, on avait le sable qui nous rentrait dans la figure parce qu'il n'y avait plus d'arbres qui retenaient ce sable.
Par exemple, vous avez vu que le paysage changeait depuis qu'on a enlevé les arbres?
Le paysage dunaire, oui.
Oui, dunaire.
Après, dans les marais, il y a moins d'impact, mais il y a quand même des impacts. Bah, tous ces arbres qui sont coupés, qui ont été abattus, mis n'importe comment, et donc bah, le vent, il enlève la dune. On sait que l'érosion côtière marche à fond. Et les tempêtes qu'il y a eu là, bah, ça a bien esquinté non seulement les dunes, mais aussi l'ancienne plage de la Mandelière qui vient jusqu'à la rue de la Source. Le sable va donc en direction du sud, dans les marais, quoi, sur la route, partout dans le coin. Quoi.
Jean-Baptiste, on est là à l'endroit où les travaux ont d'ores et déjà commencé pour créer ce port. On est donc au bord de la mer, sur la dune. En fait, c'est un paysage qui a l'air un peu désolé. Hein. Il y a des arbres coupés partout. Ça a déjà été donc désherbé et ramassé pour enlever les graines. Quels sont les dommages les plus criants que pourrait apporter la création de ce port, Jean-Baptiste ?
Tout d'abord, pour faire un chenal pour entrer la mer, donc il faut briser le cordon dunaire. C'est 150 mètres de dunes pulvérisées offrant une entrée à l'océan, puisqu'ici nous ne sommes pas dans une petite mer, c'est un océan, c'est l'océan Atlantique. Nous sommes face à la houle, exactement face à la houle. et avec les vents dominants. Donc ce qui veut dire que pour protéger l'entrée du chenal de port, il y aura l'installation de roches artificielles juste à l'entrée, engoulées, 350 mètres à bâbord, 250 mètres à tribord à l'entrée, pour briser soi-disant la houle. Mais le goulet d'entrée, etc., lorsque les grandes tempêtes arriveront, elles vont s'infiltrer dans ce petit espace de chenal, au fond du bassin de port dans les terres, la vague de jet de pression va passer par-dessus bord et arrivera dans le bourg de Bretignolles.
En réalité, sur le long terme, les mouvements de la mer emportent le sable et le redéposent un peu plus loin. La côte vendéenne est donc à l'équilibre. Mais que va-t-il se passer si l'on coupe le cordon dunaire, c'est-à-dire la réserve de sable, pour ouvrir un chenal ? Guillaume Langlois, océanographe.
Il y a le côté environnemental, c'est-à-dire les effets hydrodynamiques qui vont être perturbés par l'arrivée de ce port. Ça va être la modification du régime des courants à la côte. Donc par l'installation de brise-lames, par l'installation d'un chenal, par une ouverture dans le trait de côte. Ça va dévier assez les courants pour pouvoir modifier le cycle de transport et de dépose des sédiments. Et du coup, mettre du sable là où il ne devrait pas y en avoir et en enlever là où il devrait y en avoir. Donc on déséquilibre quelque chose qui est déjà à l'équilibre. Et on va apporter une nouvelle dynamique qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. Le problème qu'on a aussi, qu'il faut prendre en compte depuis bientôt 20 ans maintenant, c'est qu'on est sûr à 100% que le trait de côte recule et qu'on ne peut rien faire contre ça. Donc modifier un site qui est à l'équilibre pour tenter d'aménager un lieu qui est un risque, comme la Vendée, avec le risque de submersion, avec le risque de houle, avec l'aménagement sur le littoral qui est déjà bien avancé sur le territoire vendéen, c'est que remettre une pièce dans la machine. C'est prendre un risque qui n'est pas maîtrisé, qui ne peut pas être compensé et qui est quasiment impossible à contrer une fois que les travaux seront faits.
Et aujourd'hui, l'érosion et les risques associés sont devenus un problème planétaire. Arnaud Gauffier du WWF.
Ce à quoi on assiste, c'est à vraiment une combinaison de facteurs multiples qui forment un cocktail détonnant. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de personnes qui veulent habiter au bord de la mer, sur les littoraux. Vous additionnez à cela le changement climatique qui fait augmenter le niveau de la mer. On s'attend à une hausse de 2 mètres du niveau marin dans les scénarios les plus graves tels que l'Agence européenne de l'environnement l'a montré à la fin du siècle. Étant donné qu'on a de plus en plus de monde qui va habiter sur le littoral, c'est de plus en plus urbanisé. On a beaucoup d'infrastructures, notamment des infrastructures côtières, qui modifie les flux de sédiments, qui modifie la côte. Et on mélange tout ça avec l'augmentation à la fois en intensité et en fréquence des événements extrêmes. Et là, on obtient un cocktail qui est potentiellement détonnant avec des impacts extrêmement graves dès le milieu de ce siècle. Ça, toutes les études le montrent, sur les infrastructures, mais aussi sur les populations, donc avec des pertes humaines potentielles importantes. Et puis en 2100, des zones entières du littoral français ou européens, juste pour prendre l'échelle européenne, qui se retrouveront sous l'eau. Donc il s'agit d'anticiper, d'expliquer, de se doter des outils juridiques notamment qui soient pertinents, pour faire en sorte qu'on n'arrive pas à des drames comme on a connu avec Cynthia.
Quand l'érosion grignote la dune, un grand reportage d'Agnès Rougier, réalisation Pierre Chaffange.
Il paraît que les éruptions solaires